Restez avec nous pour les midis. Deuxième partie à 13h, je recevrai la romancière Audur Ava Olavsdottir. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Nous avons appris la mort à 93 ans de Claude-Louis Combet, romancier, poète, éditeur et philosophe. Il laisse derrière lui une œuvre à part dans le paysage littéraire français, pleine de mystique et de mythologie, de sensualité et d'un rapport contemplatif à la langue, avec des titres parmi les plus beaux de la littérature. J'en cite quelques-uns. Le péché d'écriture en 1990, Blesse, ronce noire en 1995, Rapt et ravissement en 1999, Des trans et des transis en 2011, Bethsabée au clair comme à l'obscur en 2015, et le dernier, Christine et l'admirable en 2022, l'œuvre de Claude-Louis Combet a été publiée chez Corti et chez Fata Morgana principalement.
Quand j'écris, quand je m'engage dans un récit, dans un roman, enfin dans une prose, une fiction de plus ou moins longue haleine, la condition essentielle, et que je recherche aussi, c'est une mise à distance, une évacuation, je crois que le terme est plus juste, une évacuation du monde vivant, du monde concret, du monde extérieur. Et donc, l'entrée en écriture passe effectivement par une approximation d'un territoire qui est vide, qui est vidé, qui est vacant et qui me tient à distance de toute influence du monde extérieur. C'est pourquoi je n'ai jamais pu écrire en relation avec une actualité. Foncièrement, j'écris dans l'inactuel, dans l'intemporel.
C'est la voix de Claude-Louis Combet que nous venons d'entendre dans l'émission du jour au lendemain. C'était en 2011 sur France Culture. François Angelier, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien l'œuvre de Claude-Louis Combet. Alors avant de parler avec vous de son travail d'éditeur, peut-être commencer par son œuvre littéraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il parle d'inactualité concernant son œuvre ?
Ah oui, totalement. C'est quelqu'un qui ne travaillait qu'avec sa matière noire, son univers intérieur, ses fantasmes, ses prières, son élan comme ça. Il m'avait dit plusieurs fois, moi, tu sais, à la fin de la journée, je m'assieds à ma table, j'allume une petite lampe, et la lampe éclaire strictement l'espace de la page, et là, j'écris et je laisse remonter en moi tout ce que j'ai pu vivre du désir, de la folie, de la journée. Donc, tout se passait dans cet espace de lumière, tout ce qu'il y avait au dehors de cet espace, c'était la nuit où l'on n'allait pas.
C'est un écrivain qui est né à Lyon et qui est mort à Besançon. C'est vraiment un écrivain français.
Absolument. C'est un Lyonnais. Il a été marqué très jeune à la fois par la mort de son père, par une mère d'un mauvais genre extrêmement fantasque et allègre. Et ensuite, il a été même d'ailleurs tenté par une vocation religieuse pour expier les folles années de sa mère, ce qui n'aura pas de suite, puisqu'il rencontrera la philosophie avec la personne de Henri Maldinet, dont il deviendra l'élève. Et ensuite, il se dirigera vers la pédagogie et dirigera un centre de formation d'instituteurs spécialisés. Donc c'était, sur le plan social et sur le plan professionnel, un pédagogue. Mais à côté de cela, c'était un homme qui était à la fois, qui était voué à l'écriture, qu'il pratiquait à la fois en érudit et d'une manière, je dirais, expérimentale, une expérience intérieure, expérience de ses limites intérieures.
Je le présentais comme romancier et poète. Est-ce que cette distinction a un sens quand on le lit ?
Absolument pas. Claude-Louis Combet était un prosateur. C'était sûrement avec quelqu'un comme André-Pierre de Mandiargues, Julien Gracq ou même Jacques Abeille, un des très grands prosateurs de cette langue française littéraire, extrêmement travaillée, orfévrée, ornée, en même temps fluide et très limpide. Mais il avait un goût artisanal pour la... C'était un luthier un peu pour la très belle écriture. Donc, il était ni romancier, il a écrit des mythobiographies où il se raconte, où il met en scène des personnages dans des sortes de contes. Il a écrit de la prose poétique, il a écrit des ouvrages érotiques ou des choses comme ça. Mais c'était pas ce qu'on peut appeler un romancier ni un poète. Il était dans ce monde intermédiaire du prosateur.
Alors, quels étaient les thèmes de prédilection de ses livres ? On l'a dit, il s'est beaucoup intéressé à la mythologie, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de mystiques. politique et beaucoup d'érotique dans ces textes-là.
Absolument. C'était d'abord un écrivain qui a travaillé l'érotisme, mais justement un peu à la manière des surréalistes. Une sorte de sacralité personnelle de l'érotisme, du corps, personnage un peu hanté comme ça par la figure du corps féminin. Et puis c'était surtout quelqu'un fasciné par l'expérience mystique. Il a créé aux éditions Millon, dirigées par Jérôme Millon et Marie-Claude Carrara, une collection qui reste comme un chef-d'œuvre. C'est un de ses chefs-d'œuvre, la collection Atopia, où il exploitait, je dirais, l'extraordinaire gisement poétique, métaphysique et mystique de la littérature spirituelle française du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française.
Mais alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait dans cette collection ? Vous avez travaillé avec lui à ce moment-là ?
Oui, moi j'ai créé une collection chez le même éditeur, mais qui partait de la Révolution française. Donc lui avait beaucoup travaillé sur cette figure qui était l'abbé Brémond, donc c'est toute cette
Rappelez-nous
figure.
Rappelez-nous qui est
l'abbé Brémond. Alors l'abbé Brémond, c'est un homme qui, dans les années 30, a véritablement inventé l'histoire littéraire de la spiritualité française. Et d'une certaine façon, Claude-Louis Combet en était l'héritier, et donc il y avait aussi bien Marguerite Porrette, Marbaud, écrivain médiéval qui a fait de très beaux textes sur les pierres précieuses, il y avait toute l'école française du XVIIe siècle, mais chaque fois, non pas sous... pris comme un érudit ecclésiastique, mais comme un écrivain amoureux de cette langue. Et vraiment, tous les textes qu'il a réédités dans Atopia sont des textes qu'il a vraiment réinventés et ressuscités.
Mais alors, comment peuvent cohabiter dans un même homme cette spiritualité, ce désir de mystique et aussi ces désirs quand même très encombrants? Vous parliez de sa mère, il y a dans un livre en particulier une évocation de sa mère comme étant désirée, comme... L'inceste est très présent. Comment cohabiter ces deux contraires, a priori ?
C'est-à-dire, justement, il se situait à un niveau de profondeur qui évacuait les antagonismes et les contradictions. Il ne pratiquait pas la mystique pour expier son goût de l'érotisme, ni l'érotisme pour se libérer des contraintes mystiques. Il était à un niveau de profondeur où il travaillait sur la notion de désir et sur l'amplitude du désir et sur la violence du désir. À partir de là, vous opérer une sorte de remontée, et là vous croisez des discours qui sont ceux aussi bien Georg Trakl que le cardinal de Bérulle. Vous êtes dans un monde, on a dépassé ces antinomies, c'est un peu la manière d'André Breton qui disait que le surréalisme était là pour dépasser des antagonismes factices. Eh bien, Claude-Louis Combet, avec ses dizaines de livres chez Corti et Fata Morgana, a dépassé ces antagonismes qui sont insupportables pour essayer de devenir un grand écrivain, un grand poète du désir.
Peut-être un dernier mot sur la mythologie. Il a beaucoup récupéré ses figures mythologiques pour les traiter également dans ses romans comme dans ses poèmes.
Oui, une mythologie très large, aussi bien païenne qu'une mythologie chrétienne. Son premier livre s'appelait Inferno Palu, sur une figure alors connue, inconnue, qui s'appelait Antoinette Bourignon, une hérétique du XVIIe siècle, dont il a fait une véritable splendeur comme Aurélia ou Nadja, vous voyez. Et un des derniers, c'est sur Sainte-Christine l'Admirable.
Ah oui, alors le dernier, Christine l'Admirable.
Figure de la mystique hollandaise du XVe siècle, qui était une sainte totalement éperdue de l'amour de Dieu, qui dansait sur les gibets et qui s'offrait pour la rédemption des damnés. Et donc voilà, c'était ça l'univers de Combet. C'était un univers totalement mystico-érotique, érotico-mystique, tout cela en même temps, dans une sorte de transe d'écriture parfaitement maîtrisée.
Très mauvais genre, finalement.
Ah oui, certes.
Mais très accessible aussi.
Oui, c'est pas du tout... Alors attention que nos auditeurs ne confondent pas. C'est pas du tout quelqu'un qui est, comme dirais-je, une écriture fermée, obsessionnelle, comme ça, qui essaie de bricoler des pas. Non, c'était véritablement un très très grand écrivain et un très très grand poète.
Un dernier mot, un conseil, il nous reste quelques secondes. On commence par quel livre quand on n'a jamais lu Claude-Louis Combet, selon vous ?
Alors là, ça c'est le piège, c'est le piège terrible. Il faut ouvrir le catalogue Corti et Blesse Ronce Noire, un très très beau livre chez Corti sur le poète polonais qui... dont le nom m'échappe, autant pour moi, et puis prendre au hasard dans la collection Atopia chez Jérôme Millon, redécouvrir ces figures mystico-poétiques.
Bien, merci beaucoup François Angelier.
Et merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain, en attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.